L'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'Aime, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi, rediffusée à 18h. On retrouve une première fois dans cette nouvelle saison un partenaire que vous entendrez régulièrement, une fois tous les deux mois environ, c'est l'EPAGA, établissement de gestion et d'aménagement de l'Aulne et de l'Yerre, un établissement public piloté par des élus, avec des salariés qui ont chacune et chacun leur spécialité. L'EPAGA traite aussi bien les questions liées à l'eau potable, à la biodiversité des rivières du bassin versant, à l'écologie générale des cours d'eau principaux et de ses affluents, mais aussi des zones humides, au lien avec le littoral, l'agriculture, le bocage, sans oublier bien sûr les risques inondations ou sécheresse. Bon, ce sera plutôt le sujet qui va nous occuper. Avec nous aujourd'hui, il y a le président de l'EPAGA, Gaël Calvar, qui est aussi le maire de Port-Launay, et Xavier Badet, co-animateur du SAGE de l'Aulne, responsable du service aménagement du territoire. Et aujourd'hui, il sera le monsieur sécheresse. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Donc la sécheresse, bon, c'était un peu la grande question de l'été, n'est-ce pas? Pas seulement dans le Finistère, mais on a découvert qu'en Bretagne, voilà, on pouvait être victime de sécheresse. Où est-ce qu'on en est en cette mi-septembre? Est-ce qu'on est toujours en crise?
En fait, depuis le 10 août, on est en crise et la sécheresse n'a pas arrêté. Malgré la fin de l'été, enfin, on termine l'été, mais on est toujours en sécheresse. Et vu les températures qui continuent, le beau temps qui arrive là.
Oui, en plus, on va se plaindre du beau temps à présent.
Voilà, on est encore en crise sécheresse, oui.
Il y a eu pourtant des pluies assez régulières, là, depuis 15 jours. Hein. C'est...
Voilà, donc on est en manque de pluie en juillet, on est en manque de pluie en août. Les pluies de juin ont fait un peu de bien, et les pluies de ces 15 derniers jours ont aussi fait du bien, mais ça n'a pas permis de remplir les réserves et de remplir les nappes.
On va expliquer pourquoi, parce qu'en fait c'est une question aussi de fonctionnement de bassin versant, de sol, de dynamique des rivières, etc. Alors là, c'est peut-être Xavier Badet qui va nous expliquer, c'est ça, pourquoi est-ce qu'on est toujours en crise sécheresse?
Alors c'est d'abord spécifique au bassin versant de l'Aulne lui-même. Au niveau général, au niveau de Bretagne, on est en crise sécheresse par rapport à la météorologie qu'il y a eu. Au niveau du bassin versant, on est sur ses caractéristiques physiques, et notamment la géologie. Pourquoi la géologie? Parce que si vous prenez une carte géologique de Bretagne, sans besoin d'autres informations, vous allez voir le bassin versant se dessiner. C'est le seul bassin versant qui est sur du schiste. Les autres sont en général sur du granit.
Alors schiste, c'est de l'ardoise, hein, c'est
voilà,
ça?
Voilà, exactement. Et comme on sait, l'ardoise est utilisée sur les toitures, tout simplement parce qu'elle est imperméable, elle permet les écoulements rapides. Et quand on est sur un bassin versant avec des écoulements rapides, et ben très vite, quand on a des grosses pluies, ça coule très fort. Mais par contre, quand on a des sécheresses, ben, tout s'est écoulé très rapidement. Et donc, du coup, on est sur des sécheresses qui viennent très rapidement et de façon très forte.
Pourrait y avoir quand même des failles, par exemple, dans ce schiste qui serviraient de nappe phréatique? C'est pas le cas, en fait?
Alors, c'est pas le cas sur le schiste. Il y en a un petit peu, mais c'est pas aussi important que sur des massifs granitiques, où là, on a des grosses failles avec des grosses réserves. Alors, c'est ce qu'on a autour, hein, sur les bassins qui sont en amont, et au nord et au sud. On est plutôt sur du granit. Là, on peut profiter de ressources qui sont plutôt souterraines. Malheureusement, chez nous, on est sur des ressources qui sont très superficielles par rapport au schiste, et donc du coup, qui sont très liées aux rivières.
Et pourtant, on a beaucoup de rivières dans le bassin versant de l'Aulne. Enfin, je ne sais pas combien on en a, si vous les avez comptées. Mais...
Alors, c'est une conséquence, tout simplement. Comme ça ne s'infiltre pas, ça coule beaucoup. Et donc, du coup, ça forme beaucoup plus de cours d'eau qu'on en aurait si jamais on était sur des infiltrations.
Et quel est le rôle du relief?
Alors, le relief, inversement... c'est une autre spécificité, hein. Le bassin versant de l'Aulne en Bretagne, c'est le seul qui est compris entre deux crêtes de montagne, qui sont les monts d'Arrée et les montagnes noires. En plus de ça, elles ont un axe qui est plutôt est, moins ouest-est, et donc du coup, dès qu'on a des flux qui viennent de l'océan Atlantique, qui arrivent sur la Bretagne, et donc du coup, qui vont rencontrer ces sommets-là, ces flux vont monter, ils vont se refroidir, et vont créer des précipitations qui sont instantanées directement sur le bassin versant de l'Aulne. Ça explique notamment les pluviométries qu'on va avoir, notamment 1800 mm à Brennilis, qui fait les zones les plus pluvieuses de Bretagne.
Et pourtant, l'eau ne reste pas, puisqu'elle s'écoule vite aussi à cause des relèves, je suppose.
Alors, on est sur des pentes qui sont assez importantes, on est sur des régimes torrentiels en amont, donc ça s'écoule très vite. On a des nappes phréatiques qui sont très, donc, qui sont pas profondes, et donc du coup qui accompagnent le cours d'eau tant qu'il y a de l'eau dans la nappe, mais très rapidement. Et le cours d'eau, arrivé en juin, juillet, août, sur des sécheresses, il dépend que de ces nappes-là, puisqu'il ne pleut plus. Et donc du coup, ces nappes s'effondrent, ce qu'on constate depuis le mois de juillet. Et donc du coup, les débits vont s'effondrer.
Après, il y a peut-être d'autres explications au fait que l'eau va s'écoule très vite et ne s'accumule pas trop, sur la façon dont on utilise les sols notamment.
Là, on est directement sur l'aménagement du territoire.
Oui. Depuis des années, on a imperméabilisé les sols, que ce soit les collectivités, les pratiques agricoles aussi ont évolué et le sol n'a plus sa fonction d'éponge. Donc il y a eu des zones humides qui ont été détruites pendant des années et les pratiques agricoles ont déstructuré les sols et l'eau ne reste plus dans les sols et va directement au cours d'eau. Donc ça va être un travail à faire de changer ces pratiques, de changer nos pratiques aussi en tant que collectivité pour que le sol regagne sa fonction d'éponge.
Alors on y reviendra en fin d'émission, mais en attendant, donc crise sécheresse, alors il y a plusieurs gradations, on va peut-être rappeler aux gens les différentes gradations, les différentes mesures officielles. Là c'est l'État qui définit ça, c'est ça?
Il y a un comité de la ressource en eau qui est convoqué par l'État, par la préfecture, et donc avec différents niveaux, jaune, orange, et là on est au niveau rouge, au niveau crise.
Donc depuis le 10 août, c'est ça?
Depuis le 10 août, et avant on était en alerte sécheresse. Oui.
Et alors qu'est-ce que ça veut dire être en crise sécheresse? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire en gros ou...
Alors c'est plein de restrictions. Ça va de ne pas arroser pour les collectivités, d'arroser que après 20 heures pour les potagers. C'est aux entreprises de limiter leur consommation de 25%. Donc les usines, des très gros consommateurs, c'est les usines. Ça peut être les usines agroalimentaires qu'on a sur le territoire. C'est plus faire de bain, ne pas utiliser de douche de plage. Voilà. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que l'Aulne alimente un tiers du Finistère en eau. C'est qu'on va jusqu'à Fouesnant, jusqu'à Douarnenez, la presqu'île de Crozon, c'est l'Aulne l'été qui alimente.
Et ça, on l'a vu quand il y a eu l'accident de méthaniseur, il y a eu beaucoup de communes touchées. Voilà. Et là, il y a des communes, concrètement, qui sont même privées d'eau, encore là, mi-septembre, qui sont obligées de faire venir des remorques.
Il y a des communes actuellement qui n'ont plus d'eau. Leur captage est tari, il n'y a plus d'eau dans le sol. Donc c'est ça, c'est la nappe qui est descendue en dessous du niveau de captage. Et qui, là, se font alimenter en eau potable par des camions-citernes.
Xavier Badet, concrètement, pourquoi ces communes-là, particulièrement, n'ont plus d'eau et pas les autres?
Alors, historiquement, c'est des communes qui sont plutôt sur le château d'eau de Bretagne, du Pont d'Arrée, qui, pour l'instant, avaient la ressource, parce qu'il pleut, comme on l'a dit, plutôt beaucoup sur les Monts d'Arrée. Et puis, donc, du coup, on a des nappes phréatiques qui sont plutôt bien rechargées. Là, cette année, on est sur des nappes phréatiques qui se sont très vite vidées, avec des températures qui étaient très élevées, donc du coup qui ont créé beaucoup d'évaporation. Et comme c'est des ressources qui sont plutôt souterraines, puisqu'ils avaient cette ressource-là, on a plutôt parié sur ces communes-là, sur la ressource souterraine, plutôt que la ressource superficielle sécurisée par l'interconnexion.
Ah oui, donc, elles ne sont pas connectées en fait au
réseau. Elles sont moins connectées, donc ce qui permet moins de sécuriser en fin de compte la production.
Donc c'est par exemple Bottmeur, il y en a d'autres, je ne sais pas.
Oui, Berrien par exemple, qui a fait un peu la une de la presse. C'est des communes qui ont eu des difficultés par rapport au fait que simplement ils étaient beaucoup sur le souterrain et moins sur le superficiel.
Et cette situation de crise sécheresse, on l'a déjà connue dans le Finistère par le passé
On a déjà eu des crises, 1990. On a eu des crises en 2003, mais c'était plus la chaleur qui faisait que. Après 1976, on n'a pas l'historique des côtes, de certaines côtes, donc on a moins ce regard-là. Par contre, sur les dernières années, c'est clair que 2022, c'est une année charnière, ça c'est sûr.
Gaëlle Calvar, les communes qui sont concernées, est-ce qu'elles se sont tournées vers les PAGA pour une aide, pour revoir aussi éventuellement leur connexion au reste du réseau?
Alors non, parce que les PAGA est donc gestionnaire du bassin versant, mais ne produit pas d'eau. Après, il y a des syndicats qui produisent de l'eau. C'est le syndicat mixte de l'Aulne à Châteaulin. C'est le syndicat du Stangère dans la région de Carré. Et ils se sont tournés vers ces syndicats-là pour les aider pour la fourniture en eau. Oui.
D'accord, mais c'est des solutions temporaires, quoi. Après, elles vont peut-être revoir à terme leur système d'approvisionnement, c'est ça en fait.
C'est ça, il va falloir qu'elles revoient leur système d'approvisionnement en cas de crise.
Alors, le rôle de l'EPAGA, c'est notamment le soutien d'étiage. C'est le mot qui fait peut-être peur, mais en fait, c'est peut-être pas grand-chose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire déjà ?
Alors, déjà, on va expliquer ce que c'est que l'étiage.
Oui, exactement.
Il y a deux grandes phases pour un cours d'eau, c'est la période de crue, où là, on est sur des grosses précipitations. Les débits augmentent et souvent il va déborder, il va sortir ton lit mineur, on va parler de crue. Et après, il y a la phase de printemps où là il va retrouver son lit normalement. Et puis, malheureusement, des années comme cette année, la phase d'étiage, où là on n'est plus sur des débits qui sont liés à l'eau qui tombe du ciel, mais qui sont liés aux débits qui viennent du sol. Donc qui sont liés aux nappes d'accompagnement, la nappe phréatique. À ce moment-là, on est sur l'étiage, on est sur des débits les plus petits.
Oui, par exemple, celui de la Loire, c'est très impressionnant en ce moment. Enfin là, ça a peut-être remonté, mais c'est vrai qu'on voyait que la Loire, il ne restait plus grand-chose. Et d'habitude, l'Aulne, c'est un étiage qui est... Enfin, c'est pas très spectaculaire, ça ne se voit pas beaucoup, c'est ça ?
Alors, il ne se voit pas parce que, justement, il y a le deuxième mot, donc soutien d'étiage. Et le deuxième mot, en fin de compte, évoque le fait qu'on va venir apporter des débits artificiels pour soutenir les débits naturels. Donc habituellement, les années normales, les gens ne se rendent pas compte puisque le débit de l'Aulne continue à être normal au cours de l'été. Mais si jamais on ne faisait pas ce qu'on fait à Brennilis, il ne serait pas normal du tout, il s'effondrerait. Donc là, on va parler soutien d'étiage maintenant.
Alors Brennilis, c'est là où il y a le lac de Brennilis, mais en fait il s'appelle Réservoir Saint-Michel, c'est ça ?
Oui.
Et pourquoi alors ? À quoi il sert ?
Alors il a eu deux fonctions. Il a d'abord eu la première fonction qu'il a gardée encore aujourd'hui. Il a été créé au départ... Dans les années 30, c'était pour la fonction hydroélectrique. Alors, on n'y produit pas de l'hydroélectricité directement. Il sert de réserve pour le réservoir qui est juste en aval sur les Lèzes, qui est de Saint-Herbotte, celui de Saint-Herbotte, qui, là, profite d'une production hydroélectrique par turbine. Et donc, du coup, pour cette production-là, le lac réservoir Saint-Michel avait été créé pour servir de réservoir de stock pour permettre la production au niveau de Saint-Herbotte.
C'est pas loin de Helgoat, c'est une petite usine, quoi.
Oui, qui produit déjà pas mal. Mm-hmm. Par rapport simplement à la pluviométrie qu'on a sur ce secteur-là. Mm-hmm. Et donc, dès les années 1990, c'est les premières crises sécheresses. Et puis, 2003, les acteurs locaux, notamment le département, qui à l'époque avait cette compétence-là, se sont vite rendus compte qu'on pouvait profiter des débits qui pouvait être amené par le lac Saint-Michel et du volume qui était stocké dans ce lac pour pouvoir amener du débit dans les rivières en aval. Et donc du coup, les premiers lâchers depuis ce lac ont été opérés. Alors au départ, sans objectif de gestion parce que c'était les premiers lâchers.
Quand on dit lâcher, c'est quel barrage exactement
Alors c'est le lac Saint-Michel et donc du coup c'est le barrage Nestavel.
Donc celui qui est. C'est quelle commune
Alors, il est à cheval entre deux communes, il doit être entre sur Brennilis et puis l'autre commune, ça doit être Brasparts.
Et ça se déverse dans quoi ?
Alors, ça va se déverser dans l'Élèze, puisque D'accord. Le lac Saint-Michel, c'est un lac de barrage qui est fait sur l'Élèze. Donc, du coup, à l'aval, c'est l'Élèze. On ouvre, en fin de compte, c'est pas nous qui ouvrons, on demande à EDF d'ouvrir les vannes du lac par rapport au débit qu'on veut en aval. Donc, ça, je vais le réexpliquer après.
Ok. D'accord. Juste une petite parenthèse pour revenir sur l'électricité. Ce réservoir Saint-Michel n'a pas été fait aussi pour refroidir la centrale nucléaire quand elle fonctionnait ?
Non.
D'accord.
Non.
Donc cette Élèze, c'est une rivière qui est quand même qui a un bon débit. Enfin,
alors, voilà, c'est une rivière qui est de très bonne qualité. On y retrouve la mulette Perrière, notamment. Donc ça, elle est témoin d'une très bonne qualité. C'est tout simplement parce qu'on est sur des tourbières, on est sur des milieux qui sont très protégés, on est sur la réserve du Vénec, donc c'est tout des milieux qui sont très protégés, et donc du coup une eau de bonne qualité.
Parce que pourquoi on fait du soutien d'étiage, c'est en fait quand même pour donner à boire aux gens, c'est ça
Alors deux fonctions.
Ouais.
La première fonction, c'est l'eau potable. Sécuriser l'eau potable pour les gens du territoire, mais pas que.
Beaucoup de gens.
Beaucoup de gens, 180 000 personnes qui sont sécurisées. Et puis la deuxième fonction, parce qu'on ne peut pas juste regarder l'eau potable, il faut regarder le milieu naturel. Donc du coup, c'est permettre la production d'eau potable tout en préservant la bonne santé des milieux. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien dire on prélève sans regarder les milieux, mais ce qu'il faut, c'est que les milieux derrière vivent.
Oui, que les poissons survivent, enfin.
Pour les poissons et puis tout ce qui est en rapport avec le milieu aquatique.
Comment ça se passe un processus de soutien d'étiage? Est-ce que vous pouvez nous décrire ça? Qui décide? Comment
On va prendre un cas concret. On arrive en juin, les débits commencent à tomber, les débits naturels de l'Aulne. On les suit. Le point objectif est situé à Pont-Poltiglas, donc à Châteauneuf-du-Fou. Donc ça, c'est un point qui est fixé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
de Bretagne.
Le SDAGE, qui définit pour le bassin versant de l'Aulne un point qui est le point nodal et qui permet en fin de compte de vérifier le respect des débits. Donc on a un débit à respecter qui est de 1,8 m3 par seconde à cet endroit-là. Donc dès qu'on va arriver sur des débits qui vont amener le débit naturel à passer sous ce débit-là, on calcule le débit qu'il faut lâcher en plus depuis Saint-Michel. Et en fin de compte, c'est ça. Donc si on voit qu'on va arriver à 8, on anticipe, puisque au moment où on lâche à Saint-Michel, il y a quand même un temps de transit, il y a au moins 48 heures.
Ouais,
donc il faut anticiper, il y a une inertie du milieu.
Ouais.
Donc,
parce que l'eau, elle va mettre 2 jours pour arriver à l'eau.
À peu près, entre le moment où on le lâche, entre le moment où ça passe à Saint-Herbotte, que c'est lâché, et puis que ça arrive en aval, ça met du temps.
C'est quoi son chemin? Alors l'Élèze, après c'est quoi
Alors l'Élèze, ça va rejoindre en fin de compte l'Aulne en amont de Moulin-Neuf, à l'Aulneau. Et puis du coup, ça s'écoule, ça va rejoindre. Il y a une confluence avec l'Yerre. Et puis à partir de ce moment-là, on va passer sur l'Aulne canalisée, Châteauneuf, avec les usines de production Stangère, Poher, Châteauneuf. Et puis au final, Châteaulin, avec l'usine de production du SMA.
Bon, ça vaut mieux que ça se fasse assez lentement, parce qu'il y a quand même des ouvrages après, les écluses, etc. Il ne faudrait pas que ça arrive trop brutalement, j'imagine.
Oui, donc ça met du temps. Ça demande une anticipation, ça demande une gestion jour le jour après.
Et quand ils ouvrent, parce que ça veut dire que EDF, quand il ouvre son barrage, il ouvre, en fait, il fait une petite ouverture, en fait, c'est ça
c'est la
qui
vanne
va
de
durer
surface.
Un certain nombre.
Ouais, on a plusieurs vannes, il y a des vannes de fond, des vannes de surface. On priorise tant qu'on peut la vanne de surface, ça permet de lâcher de l'eau oxygénée, il n'y a pas de souci.
Celle du fond est moins d'oxygène.
Alors, si on lâchait dès le début en eau du fond, on est sur un lac très profond à ce moment-là, et donc du coup, si on n'a pas de vent, on pourrait avoir une eau qui est moins oxygénée.
Donc pour la faune,
donc ça c'est le cas habituel.
Ouais, d'accord.
Voilà. Ouais. Le cas exceptionnel, c'est le cas 2022, où là le lac est descendu. On n'a plus que 1,4 million de mètres cubes. Alors en tout, on a 13,5 millions de mètres cubes mobilisables si le lac est plein en début d'année.
Ok. Et là, il restait plus.
Alors dans ces 13,5 millions, 10 millions sont réservés pour le soutien d'étiage. Ça, c'est une convention qu'on a avec le concessionnaire du lac.
Et le reste pour l'électricité, alors?
Non, le reste, c'est tout simplement parce que c'est trop au fond.
Ah oui. Il faut qu'il reste toujours 3 millions de mètres cubes d'eau
dans le lac
pour qu'il fonctionne.
Voilà, 3,5 millions, d'accord. C'est ce qui est à peu près visé par la convention qu'on a. Sauf que là, cette année, on a dû lâcher plus tôt, on a dû lâcher plus fort et plus longtemps. Et donc, du coup... on arrive à un niveau maintenant mobilisable à partir de la surface qui est plus que de 1,5 million de mètres cubes. Et si on se projette sur des débits tels qu'on lâchait en août, c'est 1 mètre cube par seconde, il ne resterait que 15 jours.
Donc là, quand vous dites plus tôt, c'était quand au lieu de quelle date habituelle
On a lâché début juin, non, mi-juin. Mi-juin, et d'habitude, on lâche fin juillet.
Ah oui, déjà, ouais. Et plus en quantité.
Et plus fort. Mmh. Et plus fort parce que les débits se sont effondrés beaucoup plus vite.
Alors quel est le message les élus, comment vous réagissez à ça, Gaël Calvar, vous
Après, c'était, comme on a dit, c'est des gestions au jour le jour, et on voit sur les courbes que le nombre de jours diminue très rapidement. Donc c'est de se dire qu'est-ce qu'il faut faire pour garder notre eau, enfin pour la garder et pour ne pas la gaspiller. Donc après, le message, c'est ce qu'on dit depuis le début de l'été, hein, c'est le moins consommer, c'est ne pas gaspiller l'eau, ne pas remplir des piscines.
Vous avez des moyens de contrôle concrètement Parce que c'est bien.
La police de l'eau fait des contrôles. Après, ils ne sont pas nombreux et ils font ce qu'ils peuvent. Il y a eu des contrôles. Après, on part aussi sur la bonne volonté des gens, hein, c'est ça. Mais après, pour les collectivités, par exemple, c'est de dire, on ne fera pas la vidange de la piscine de Châteaulin, là, En septembre, comme d'habitude, il n'y a pas d'eau, ça ne sert à rien d'aller gaspiller de l'eau. Autant qu'on garde l'eau de Châteaulin et puis on fera une vidange plus tard, quoi. Quand il y aura de l'eau de nouveau dans le milieu. Parce que là, si on n'a pas d'eau qui arrive, là, dans quelques jours, bah, le lac sera vide, quoi.
Des solutions à court terme, il y en a d'autres, plus techniques peut-être, Xavier Badet
Alors, à court terme, il y aurait le plan C. Alors, il y a le plan B. Le plan B, c'est changer le mode de gestion. Et ça, c'est déjà envisagé, puisque avec le délai de 15 jours, on est obligé de l'envisager. C'est d'utiliser une partie des eaux du fond du lac, à savoir 2 millions sur 3,5 millions. Donc là, c'est déjà envisagé et ça devra se faire si jamais on arrive en dessous de la côte.
Donc là, c'est buvable, mais c'est dangereux pour la faune et la flore.
Non, parce qu'on a anticipé ça. D'accord. Et on a commencé à lâcher, en fin de compte, en mélangeant les eaux du fond et les eaux de surface, pour, en fin de compte, enlever la partie qui pourrait être non oxygénée au fond.
Plan B, ok.
Ça, c'est le plan B. Et le plan C, c'est pas encore acté, mais ça pourrait être mis en œuvre si jamais on devait y aller. Ça serait la vidange de l'Aulne canalisée d'amont vers l'aval pour libérer les volumes qui sont représentés par chaque bief.
Mais ça servirait à quoi
c'est vider le canal et récupérer un peu d'eau, un peu de débit qui viendrait...
Pour l'aval. Ah oui, parce qu'il y a, à cause de la canalisation, il y a de l'eau qui ne s'écoule pas vraiment, c'est ça ?
En fait, chaque écluse retient un volume d'eau.
Ah oui, d'accord.
Et ce serait de mobiliser. À chaque fois, on gagnerait quelques jours d'eau en attendant la pluie.
Toujours pour boire, quoi.
Voilà.
Pour boire et puis pour des usages vraiment très nécessaires. Voilà. Quoi.
Et il y a, en fait, donc on lâche des volumes pour boire, mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'Aulne, il y a aussi toutes les stations d'épuration. Et c'est que les débits qu'on lâche, c'est aussi pour diluer en fait, ces stations d'épuration.
Oui, voilà, oui, pour pas que...
Bah pour pas que le milieu soit saturé en eau polluée de nos stations d'épuration.
C'est ça, parce que s'il n'y a pas assez d'eau dans les stations d'épuration, au final, ça va dans les rivières, mais c'est trop concentré, quoi.
Enfin, c'est ça.
En polluant divers et variés, quoi. C'est ça ?
Ben c'est ça, à peu près. Simplement, si on enlève l'apport des nappes phréatiques, si on enlève le soutien d'étiage... Eh bien, il ne reste que les rejets. Et si jamais l'eau n'était comprise que par des rejets, ça poserait vraiment un problème de qualité. Là.
Alors, le réchauffement climatique nous laisse présager que ce genre de situation va se reproduire assez régulièrement. Donc là, il faut vraiment qu'on examine des solutions plus de long terme. Alors, quelles pourraient être ces solutions de long terme ?
Alors, sur les solutions de long terme, on en parlait tout à l'heure, c'est de redonner sa fonction d'éponge au sol. C'est de recréer des zones humides. Les zones humides sont là en hiver pour... éviter les crues, mais en été aussi pour redonner, comme une éponge, au fur et à mesure, redonner de l'eau au milieu. Elles vont s'assécher au fur et à mesure des températures. Et après, c'est sur toute la surface agricole, c'est d'éviter en fait, de consommer trop d'eau. Donc, éviter l'irrigation, éviter d'avoir des cultures qui se font sur des sols qui vont pouvoir garder de l'eau. Et plus on gardera d'eau dans le sol... Donc c'est, par exemple, favoriser le carbone dans le sol.
Et c'est quel type de culture, par exemple ?
Après, c'est...
C'est toutes les cultures. C'est plus la pratique qui change.
Ah oui, par exemple ?
Alors, la pratique habituelle, et celle qu'on voit habituellement sur la Bretagne et ailleurs, c'est le retournement des terres pour minéraliser la matière organique et du coup libérer des nutriments pour produire. Là, c'est justement bloquer ce processus-là de minéralisation de la matière organique, pour accumuler de la matière organique. Pour vous donner une image, vous préférez mettre vos géraniums dans une jardinière avec du compost et du terreau que de mettre vos géraniums dans une jardinière avec du sable. Tout simplement parce que le compost et le terreau représentent un complexe argilo-humique qui va retenir l'eau plutôt que le sable.
Donc on fait... On laboure plus, c'est ça, concrètement, pour l'agriculture ?
Par exemple.
C'est ça, c'est de favoriser le non-labour, par exemple.
Des engrais verts qu'on laisse sur place aussi. On fait pousser des engrais verts quand il n'y a pas de culture et des choses comme ça.
C'est d'aller semer à même la parcelle sans retourner la terre. Et ça permet, par exemple, d'éviter au printemps, quand on retourne, d'éviter une évaporation des sols. Toute l'eau qui est évaporée au printemps, quand on retourne la parcelle, ne reste pas dans la parcelle. Donc, manque après pour le reste du printemps et l'été. Donc, c'est des choses qui ont déjà été testées, qui marchent déjà dans beaucoup de coins de Bretagne. Donc, C'est pas nouveau.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et ça s'applique à tout type de milieu.
Et le bocage aussi, les pagas justement s'occupent du bocage.
Oui, alors ça c'est toutes les zones tampons, ce qui permet en fin de compte de freiner les écoulements, les ruissellements. Donc là on a deux fonctions, c'est retenir l'eau, mais c'est aussi retenir les polluants qui sont transformés, qui sont transportés dans l'eau. Donc toutes ces zones-là, par le brise bocage, effectivement les zones humides qui ont aussi cette capacité à capter les polluants, mais aussi à être en fin de compte l'éponge qui va faire rentrer l'eau au niveau de la nappe et qui va la restituer aussi. Plus tard.
Bon, ça, ce sont quelques-unes des solutions. Il y en aurait d'autres, sans doute, mais on n'aura pas le temps de les explorer pour l'instant. Mais vous reviendrez, c'est pas grave. On viendra parler de l'agriculture dans le bassin versant de l'Aulne, plus spécifiquement, par exemple. Merci beaucoup. On retrouvera les pagas très bientôt. En fait, ça sera dès la semaine prochaine. On parlera tout autre chose. Et puis, on pourra, bien sûr, en attendant, réécouter cette émission sur le site de Radio Évasion.